Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Quand j'ai entendu ça ce matin, j'étais fier de mon Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Ils se sont levés, ils se laisseront pas marcher ses pieds. Salut Nick.
Salut, ça va bien?
Ouais, t'avais un ton solennel ce matin, t'avais une belle coiffure aussi.
T'étais habillé chic aussi, là.
Bel homme, on te félicite.
Ben merci. Écoute, je m'attendais pas autant de compliments ce matin. Ben oui, écoute, il fallait avoir le ton le plus solennel que possible parce qu'on était effectivement au Parlement à Ottawa pour faire notre conférence de presse et effectivement pour lancer les hostilités contre l'Agence du revenu du Canada et sa, ce qu'on appelle sincèrement une hausse illégale et antidémocratique de l'impôt sur le gain en capital. Donc, je suis content en plus que tu as pu jouer même l'introduction de la note que j'ai adressée, ne serait-ce que devant les quelques journalistes qui étaient là et qui nous regardaient sur Zoom, parce que effectivement c'est quand même tout un événement. C'est pas la première fois qu'on fait une conférence de presse comme ça, et j'espère que c'est pas la dernière fois, mais du moins j'espère que c'est la dernière fois pour la hausse de l'impôt sur le gain en capital, puis qu'on pourra éventuellement mettre ça derrière nous, puis avoir une autre victoire pour les contribuables. Mais effectivement c'était quelque chose ce matin, puis merci d'avoir été à l'écoute puis de nous aider à pousser le message pour que tout le monde soit au courant de notre travail pour les contribuables.
On en a régulièrement parlé de ça, le fameux gain en capital. Là. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne sont pas au fait de ça, est-ce que tu peux nous faire la prémisse de ça et où est-ce qu'on en est rendu? Puis pourquoi c'est quelque chose qui n'a pas été voté à Ottawa, mais qui est quand même pris en charge par Revenu Canada?
Oui, ben pour faire histoire courte, tout le monde se souvient qu'en avril 2024, le gouvernement de Trudeau a déposé son fameux budget. Dans ce budget-là, il y avait inclus aussi une hausse du taux d'inclusion sur le gain en capital. Donc, essentiellement, tous les gains supérieurs, donc quand on parle par exemple la vente d'une maison secondaire, d'un chalet, d'un immeuble à revenus ou d'une entreprise d'actions à la bourse, donc tous les gains qui sont supérieurs à 250 000 $ ben en fait, en haut de cette tranche-là, c'est 66,7% de ce montant-là qui sera imposé. Et là, après ça, ça va varier en fonction du revenu. C'est la modification du taux d'inclusion, aussi niaiseux que ça puisse paraître, ça permet au gouvernement fédéral d'aller chercher pas loin de 7 milliards de $ dans les poches des contribuables canadiens d'un bout à l'autre du pays dès cette année. Et au courant des prochaines années, ça permettrait aussi d'aller de continuer à aller chercher des revenus supplémentaires. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est simple. C'est Mme Freeland, en plus, qui l'avait dit à ce moment-là, ce qui est assez particulier parce que il y a quelques jours, elle a dit qu'elle allait annuler cette hausse si elle était première ministre. Mais quand elle était ministre des Finances et vice-première ministre, elle disait on va hausser l'impôt sur le gain en capital pour pouvoir ne serait-ce qu'aller chercher des revenus supplémentaires puis éviter d'avoir des déficits trop importants. Finalement, tout ça est tombé à l'eau. Les déficits sont plus importants que prévu. Mais le pire là-dedans, c'est qu'ils ont déposé, en fait, une sorte de motion et de voie de moyen pour introduire tranquillement la notion de la hausse de l'impôt sur le gain en capital. Mais ils n'ont jamais fait de projet de loi. Le projet de loi n'a jamais été déposé. Il n'a jamais été adopté ni promulgué en bonne et due forme d'une quelconque manière, en fait. Et la réalité, c'est que là, on est rendu en janvier 2025. Le Parlement est fermé. Il est prorogé jusqu'au 24 mars. Et ce projet de loi-là, dans sa forme initiale, a été carrément mis sur une tablette suite à la prorogation du Parlement. Ce qui fait en sorte que finalement, la hausse de l'impôt sur le gain en capital ne s'applique pas. Le gros problème, par contre, c'est que l'Agence du revenu du Canada, eux, depuis juin dernier, ils procèdent à aller chercher cette hausse de l'impôt des gains en capitaux et donc essentiellement d'imposer les gens qui, par exemple, qui partent à la retraite et qui vendent leur commerce ou leur immeuble à revenus. Ces personnes-là sont directement ciblées par cette hausse-là, inévitablement. Mais l'affaire, c'est que la loi n'a jamais passé. Et ça reste quand même très problématique parce que dans la Constitution canadienne, comme vous avez peut-être pu l'entendre dans ma note d'introduction, ben c'est effectivement inscrit, un peu comme dans ce principe qu'on entend souvent aux États-Unis, no taxation without representation, pardon. Ben c'est un principe parlementaire britannique qui est aussi important pour les Américains qu'il est important dans notre Constitution au Canada. Et donc, de facto, vu que la hausse de l'impôt n'a jamais été votée, l'Agence du revenu du Canada n'a pas le droit d'aller chercher cet argent-là dans les poches des contribuables d'une quelconque manière. Et ben voilà, donc on est dans une sorte de situation bien particulière parce que l'Agence du revenu elle-même est pas sûre de savoir si elle devrait aller chercher l'argent ou pas. C'est quasiment du cas par cas. Donc, c'est très chaotique comme situation. Et en plus, ben il faut le rappeler, même si le Parlement rouvre le 24 mars prochain, les chances que ce projet de loi-là soit adopté sont extrêmement minces parce que toutes les parties de l'opposition veulent aller en élection. Et en plus, ben ceux qui aspirent à remplacer Justin Trudeau comme, mettons, Mme Freeland, ou peut-être même Carney, les deux semblent être assez ambigus, ou du moins s'intéressent à peut-être à revenir en arrière par rapport à cette hausse de l'impôt-là. Et ben Poilievre, qui est élu premier ministre pour les conservateurs, lui aussi a été assez clair là-dessus. Donc, on est vraiment dans une situation très particulière, très chaotique, et il faut rappeler que la hausse de l'impôt sur le gain en capital arrive au pire moment. On hausse les impôts alors que l'économie pourrait faire face à une récession à cause des craintes par rapport aux tarifs que les Américains pourraient imposer. Et par-dessus le marché, ben on a quand même une économie qui a connu des revers assez importants, qui est au ralenti, et on a des contribuables qui en ont vu de toutes les couleurs au cours des dernières années. Donc bref, tout ça arrive au pire moment, tant pour notre économie que pour les contribuables, que pour le pays en général. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris, nous, les grands moyens pour aller lever le financement et se doter d'avocats, en fait, pour aller en cours devant l'Agence du revenu du Canada et s'assurer à ce que cette hausse de l'impôt du gain en capital ne soit plus du tout appliquée. Parce que, et je vais vous dire aussi pourquoi, en fait, le dernier point que je vais emmener, c'est que ça pourrait être un très dangereux précédent. Si l'Agence du revenu du Canada ou n'importe quel percepteur d'impôts se met à cueillir de l'impôt sur la prémisse que le Parlement va peut-être le faire bientôt, donc on prend de l'avance. Non, je suis désolé, mais la règle, c'est le Parlement fait et ensuite l'Agence du revenu va suivre.
Exact.
Et non l'inverse.
Mais Nicolas Gagnon, est-ce qu'il n'y a pas un contentieux qui a conseillé cette décision-là? Je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas demandé à des avocats si c'était possible de le faire, même si ça n'avait pas passé par Ottawa avant. Puis si finalement les conservateurs arrivent au pouvoir puis ils enlèvent ça, là, tout l'argent qui va avoir été prélevé va être remis aux individus avec intérêt, donc ça va coûter encore plus cher aux contribuables.
Oui, ça va coûter très cher. En plus, ils ont engagé des fonctionnaires de plus pour aller chercher cette taxe-là. Donc, déjà, on a des coûts récurrents qui se sont ajoutés. Puis oui, on se demande effectivement s'ils ont pris le temps de faire leur devoir, ne serait-ce qu'au d'un point de vue légal, de considérer l'impact que ça pourrait avoir d'augmenter l'impôt, ou du moins de laisser l'Agence du revenu aller percevoir un impôt qui n'a pas encore été voté. C'est toute la notion même du problème est là, carrément. C'est à se demander si le gouvernement fédéral a fait ses devoirs. Mais nous, on a fait les nôtres et on est persuadés qu'en fonction de la Constitution, l'Agence du revenu n'a pas du tout le droit de le faire. En fait, et c'est pas juste pour éviter un précédent, mais aussi s'assurer à ce que les personnes ne soient pas davantage pénalisées par cette hausse d'impôt qui n'avait pas lieu. Il faut rappeler aussi que quand ils ont mis la date butoir en juin dernier, c'est à partir de ce moment-là que l'Agence du revenu du Canada s'est mis à percevoir l'impôt sur le gain en capital, essentiellement parce qu'ils ont passé le budget en avril, puis ils ont dit qu'ils allaient commencer à percevoir cette hausse-là, ou du moins qu'elle entrait en vigueur dès je pense que c'était le 15 ou le 24 juin, quelque chose comme ça. Sauf que, comme promis, ça n'avait pas été encore voté. Mais de l'autre côté, eux, ils commençaient déjà à se préparer. Et la réalité, c'est qu'au Canada, apparemment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand même assez récemment, c'est que des fois, l'Agence du revenu va se préparer assez rapidement à mettre en place ces nouvelles politique ou ne serait-ce que les nouveaux programmes ou autres, parce que des fois, entre le moment où est-ce qu'on l'annonce et le moment où est-ce qu'on le fait, il y a toute une adaptation qui est nécessaire. Mais là, c'est comme si l'Agence du revenu s'était adaptée super rapidement, il s'était préparé, il commençait à faire son travail avant même que les politiciens aient voté la pièce législative. Et à la fin, je pense que l'Agence du revenu elle-même s'attendait à ce que les politiciens fassent leur job, parce qu'il faut se dire une chose, ils ont passé le budget en avril 2024, qui n'ont pas été foutus, je suis désolé, mais ils n'ont pas été foutus de passer un projet de loi entre avril 2024 et la prorogation du Parlement. Donc, à la fin de la journée, oui, d'un, il y a des politiciens qui n'ont pas fait leur travail, puis c'est peut-être une bonne chose au final, parce que c'est là-dessus qu'on se base pour être en mesure de combattre cette hausse-là. Mais par-dessus le marché, oui, ça crée tout un litige qui pourrait, comme tu l'as dit tantôt, mener à des règlements en cours. Nous, de notre côté, on représente justement un couple de l'Ontario, le couple s'appelle Vosteveld, donc je ne vais pas aller plus dans les détails, ils sont de Mapleton en Ontario, et ils ont appelé la fédération pour nous demander, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, et c'est là qu'on a regardé c'était quoi les différentes approches qu'on peut faire au niveau légal pour justement les défendre et défendre de ce même fait tous les autres contribuables qui seraient lésés par cette hausse d'impôt. Et il faut aussi dire que quand la hausse d'impôt était annoncée, il y a des gens qui se sont dépêchés à vendre leurs actifs. Et ça, c'est quand même assez grave. Et ça, je me demande même si ça va pas donner donner place à d'autres litiges. Parce que quand ils ont mis la date butoir en juin 2024, il y a des gens qui se sont dit, si la hausse de l'impôt du gain en capital arrive, moi, je risque de perdre des dizaines de milliers de dollars quand je vais vendre mon immeuble à revenus pour ma retraite. Donc, je vais le vendre tout de suite. Donc, il y a du monde qui se sont dépêchés à vendre leurs actifs.
Tu le vois comment, Nick? Tu le vois-tu comme un genre... Ben, c'est pas un délit d'initié, mais sachant de l'information, ils décident de pas laisser aller les choses. Mais c'est je sais pas comment le voir.
Ben, c'est parce que les gens qui ont vendu leurs actifs en se disant, ben, OK, la hausse de l'impôt s'en vient, donc je vais me dépêcher à vendre mes actifs avant de devoir payer plus d'impôts essentiellement. Puis là, ils se ramassent quelques mois plus tard puis ils se rendent compte que la hausse de l'impôt n'a pas eu lieu. Ces personnes-là auraient peut-être attendu quelques années avant de vendre leurs actifs et donc ils auraient peut-être pu en profiter davantage en vue de leur retraite ou de leurs prochains investissements. Mais à la place, ils ont été un peu pris au dépourvu parce qu'ils ont vendu pour épargner sur de l'impôt qui ne s'appliquera peut-être jamais. C'est fou à quel point toute cette situation-là crée des problèmes qui peuvent avoir tant de nature légale que financière pour un nombre incroyable de Canadiens. Puis je tiens à rappeler une chose, puis ça c'est peut-être mon dernier point pour pas trop renforcer des chiffres là et des arguments légaux, mais l'institut public en politique publique qui s'appelle CDR, qui est basé en Ontario, ils ont publié un rapport récemment qui indique que cette hausse de l'impôt du gain en capital va pas juste affecter effectivement monsieur et madame tout le monde qui ont des épargnes ou des actifs, ça va aussi affecter l'économie en général. On parle d'une perte de 90 milliards au courant des 5 prochaines années. C'est l'impact qu'aurait cette hausse de l'impôt sur l'économie canadienne. Et ça pourrait faire fuir ou même faire disparaître pas loin de 400 000 emplois au courant des 5 prochaines années. Donc, c'est quand même pas rien comme hausse d'impôt. Ça a beaucoup d'impact, beaucoup de conséquences sur l'économie en général. Et il faut rappeler, cet impôt-là n'a pas été voté par le Parlement. Et c'est là-dessus qu'on va se battre, en rappelant qu'il faut que chaque impôt soit voté, promulgué et adopté en bonne et due forme par le Parlement avant d'être appliqué.
Non, good job en passant. C'est un très bon coup de la Fédération canadienne des contribuables. Je veux te parler de Michel Girard. Par les années passées, on a souvent reproché à des journalistes qui suivaient un peu le beat de la politique d'être souvent dans le même lit que les politiciens qui suivaient et sur lesquels ils écrivaient des articles. Michel Girard, c'est un gars que j'adore, c'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un gars qui n'a jamais accepté d'être copain-copain avec les politiciens, si ce n'est que peut-être des fois d'échanger de l'information. Mais il met souvent le gouvernement dans l'embarras. Et là, il a fait réagir beaucoup Sonia Lebel. Là.
Ben oui, parce qu'il a publié en fin de semaine un très bon, une très belle chronique, en fait, là, qui rappelle que sous le gouvernement Legault, ne serait-ce qu'à plusieurs niveaux, on a vraiment augmenté la taille de l'État, ou du moins le payroll du secteur public, comme il dit, a drastiquement augmenté. Quand on regarde juste le nombre de travailleurs dans les services publics au Québec depuis en 2019 et 2025, 2024, pardon, donc les cinq dernières années, on parle quand même de 176 500 employés de plus qui se sont rajoutés en fait à l'ensemble là, de la bureaucratie, tant au niveau municipal, provincial que fédéral. Puis de ce chiffre-là, ben nous, on le martèle souvent, ce fameux chiffre-là, il y a quand même 72 500 fonctionnaires de plus au niveau du gouvernement du Québec lui-même. Donc, plus du tiers des effectifs gouvernementaux qui ont été ajoutés à la machine, ne serait-ce qu'en sol québécois, sont directement dans la machine de François Legault, donc au niveau québécois. Et je pense que Sonia Lebel, au début, elle voulait corriger Michel Girard sur le fait que quand il a sorti ses chiffres de 176 000, elle lui reprochait qu'effectivement, non, c'est pas toute la fonction publique québécoise, puis blablabla, on n'est pas 100% responsable de ça. Mais la réalité, c'est que le 72 500, ça, c'est 100% leur responsabilité. C'est le chiffre qu'ils ont ajouté à la fonction publique alors qu'ils promettaient d'en réduire de 5 000 le nombre d'effectifs. Oui. Un travail qui n'a jamais été fait. Et au final, ça a fait sauter, je veux dire, les dépenses, je veux pas.
Puis souvenons-nous de François Legault, avant qu'il vienne au pouvoir, mentionnait qu'il allait couper dans la fonction publique. Là, lui, Michel Girard nous parle de 176 500 employés de plus qui ont été ajoutés sur le payroll du secteur public québécois. Ça, c'est 176 500 bons salaires, mais en plus, il y a le fonds de pension qui vient avec ça, là.
Oui, il y a le fonds pension qui vient avec ça. Puis tu sais, là-dedans, il y a quand même pas loin j'ai pas les chiffres exacts devant moi pour le fédéral, par contre, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers qui sont au fédéral là-dedans. Puis je tiens à rappeler qu'environ un travailleur sur trois de la fonction publique fédérale fait un salaire dans les six chiffres. Donc, c'est quand même pas des mauvaises conditions. Et généralement, ils ont quand même des fonds de pension qui sont ajustés en fonction du salaire. Donc, généralement, ils s'en tirent plutôt bien. Et oui, à la fin, c'est qui paye pour tout ça? C'est nous, les contribuables. Et ce qu'on voit d'un, ne serait-ce qu'un retour intéressant pour, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des services ou de leur accessibilité à n'importe quel niveau, ne serait-ce que d'avoir un peu plus d'argent dans nos poches en contrepartie. Si on n'a pas les résultats, ben, il n'y a rien de ça, malheureusement. malheureusement.
Ouais. Quand tu regardes ça depuis 2019, là, il y a 176 000 personnes de plus qui travaillent au gouvernement et ça ne s'est pas amélioré.
Ben, c'est ça le problème. Puis on s'entend que ben 176 000, c'est sûr qu'il faut toujours le répartir à droite puis à gauche entre les administrations municipales et le fédéral et le provincial, mais qu'on prend juste le Québec, qu'on prend juste les 72 000 qui ont été mis dans la machine québécoise. Bon, on essaie de voir était où l'amélioration quand on a engagé plus d'effectifs chez Hydro-Québec, entre autres. Les effectifs ont augmenté de pas loin de 20 % au courant des 5 dernières années. Pourtant, est-ce qu'on a l'impression que c'est mieux ou que le réseau énergétique est plus stable ou qu'on a moins de coupures d'électricité? C'est une question qui vaut la peine d'être posée. De la même manière que quand on regarde, par exemple, le budget en santé qui a augmenté de pas loin de 70 % au courant des 5 dernières années, est-ce qu'on a l'impression d'être mieux servi ou du moins d'être mieux traité dans le système de santé? Ben, poser la question, c'est y répondre. Donc, des fois, il faut se poser cette question-là. Est-ce que l'ajout d'effectifs, est-ce que l'ajout de programmes a mené à une amélioration? Puis, ben, si on n'est pas capable de répondre positivement, ben, c'est là qu'on est supposé se revirer de bord puis faire le ménage. Ben, le ménage comme tel que François Legault promettait en 2018, ben, il l'a jamais fait. Et malheureusement, nous, contribuables, on paye pour ça. Et on paye pour un État plus lourd, moins efficace et beaucoup plus coûteux.
Nicolas Gagnon, félicitations à toi et ta gang d'aller au BAT contre le gouvernement pour le contribuable. C'est tout à fait louable de votre part, puis ben merci beaucoup de le faire.
Ben écoute, c'est à moins des choses. C'est pour ça qu'on fait notre travail. On aime ça, de se battre carrément. C'est notre motivation. On se lève le matin, puis on sait très bien ce sur quoi on va fesser. Et dans ce cas-ci, ben écoute, c'est un plaisir de nous battre pour les contribuables. Il y a du monde qui m'ont interpellé en me disant est-ce qu'on va faire la même chose pour le Québec, considérant que Éric Girard a harmonisé l'impôt sur le gain en capital du Québec avec celui du fédéral. On regarde tous les scénarios, c'est tout ce que je veux dire, mais une chose est sûre, c'est un plaisir de me battre pour les contribuables tous les jours.
Midi 57, on s'arrête. Merci, Nick!
Toujours un plaisir, salut!
Bye-bye! Pour en savoir plus sur Nicolas Gagnon et la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable avec un S.ca, contribuable.ca. Marceau le midi.